Bonjour et bienvenue. Comme un bruit qui court, c'est le magazine de reportage de France Inter.
Aujourd'hui, on retourne à Madrid avec Podemos, on part en Suisse avec Jean Ziegler et en Normandie où après Charlie, c'est le malaise.
Comme un bruit qui court est réalisé par Joseph Caraballona, assisté de Karen Deré, Leda Chaloup-Freys avec à la technique aujourd'hui, Guillaume Roux et Charles Danet.
On n'a rien fait, on est irréprochable, on est laïque. Jusqu'au bout des ongles, tout ça, ce sont que des mensonges.
La Suisse pille le fisc français, inflige de la misère très directement à des millions de Français, et quand il s'agit du tiers-monde, c'est l'argent du sang.
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux les bruits qui courent ?
Comme un bruit qui court que nous vivons aussi une époque formidable. Alors oui, il y a les djihadistes, oui, il y a les marchés financiers, oui, il y a tout un tas de problèmes, mais parfois aussi, l'espoir se fait une petite place dans les idées noires des JT. Et il n'en faut pas plus parfois pour que tout un tas de gens se mettent eux aussi à espérer. Pas le grand soir, mais la sortie du brouillard. Prenez l'Europe du Sud. Antoine Chao nous a fait vivre la victoire de Syriza et son programme anti-austérité. Puis la grande manifestation pour Podemos en Espagne, qui est aujourd'hui en tête des sondages pour les élections à venir, avec des ambitions qui, elles aussi, paraissaient il y a encore peu de temps démesurées. Prenez la Suisse, qui rentrait la tête dans les épaules au moment de l'affaire d'évasion massive LuxLeaks, et qui maintenant se retrouve sous les projecteurs avec SwissLeaks et des nouvelles révélations sur l'industrie de l'évasion fiscale. Mais loin des cimes, le quotidien en France garde parfois une odeur viciée. Un mois et une semaine après les attaques des 7, 8 et 9 janvier, après le souffle couplé, après l'émoi national, certains coins du pays sont restés un peu groggy. Comme ce petit village de Normandie, où Anaël Verzo va nous emmener loin de l'actualité et du djihadisme, où l'on se regarde maintenant en biais, où le malaise s'est installé, faute d'avoir pu se parler. Comme un bruit qui court. Contre le candidaton sur France Inter, une heure de reportage à feu et à son.
Antoine Chao.
Anaël Verzo.
Guy Vanquedi. Comme un bruit qui court.
Hashtag comme un bruit.
Nous avons besoin de Quijotes, de Don Quichotte. Nous sommes fiers de ce rêveur à cheval, de cet espagnol universel. Nous avons besoin de rêveurs courageux qui sachent rêver un monde meilleur et qui osent appeler les choses par leur nom. Il y a besoin de rêveurs qui osent défendre ceux d'en bas et qui osent défier ceux d'en haut. Il y a besoin de Don Quijotes. Nous rêvons comme Don Quichotte, mais nous prenons nos rêves très au sérieux. Don Quichotte 2.0. Pablo Iglesias et Podemos ont remis en selle l'illustre chevalier de la Mancha, le redresseur de tort, Don Quijote. Mais n'allez pas vous méprendre, ce n'est pas un relent de folklore passéiste et de toutes les luttes que Don Quichotte a menées contre les injustices sociales, l'attaque des moulins est certainement la plus emblématique de son engagement. Sans aucun doute, Miguel de Cervantes, l'auteur, en écrivant en 1605 le premier tome de son œuvre maîtresse, pensait très certainement au moulin des Fougères, une famille de banquiers allemands qui avait financé, pour la couronne espagnole, la bataille navale de Lepante et avait obtenu en échange la privatisation des moulins du pays, ouvrant une nouvelle époque de l'histoire économique de l'Espagne. Aujourd'hui, nous retournons à Madrid et à Paris pour comprendre le phénomène Podemos.
La Serna Fuenlabrada, donc on est en banlieue de Madrid. C'est l'usine Coca-Cola qui est ici, dans cette banlieue.
Hola, soy Noelia. Encantada. Pues yo soy Noelia Isidoro.
Moi je suis Noelia Isidoro.
Tengo 32 años.
J'ai 32 ans.
Soy profe de secundaria
je en un instituto público aquí en Fuenlabrada. Ici à Fuenlabrada.
Pues milito en Podemos.
Je milite à Podemos.
Después de las elecciones europeas.
Les élections européennes du 25 mai 2014.
De mayo. Y yo sí creo que se está moviendo algo, porque si,
si
hace 5 años o 4 años nos dicen que algo va a cambiar, no nos lo hubiéramos creído.
Si on nous avait dit que les choses allaient changer,
antes,
on l'aurait pas cru.
Por ejemplo, en un desahucio,
par exemple, avant, pour
nadie se hubiera Todo el mundo nos decía lo de vivir por encima
on entendait
de
dire que ces familles expulsées vivaient au-dessus de leurs moyens.
En ningún medio de se hubiera hecho un reportaje sobre gente desahuciada y donde las víctimas
personne,
eran los
aucun média n'aurait fait un reportage où ces gens expulsés apparaissaient comme des victimes à la place des banques.
O sea, sí, hay un cambio.
Oui.
Hay un cambio grande.
Il y a un grand changement.
Et alors ici, c'est quoi Fuenlabrada? C'est la banlieue de Madrid, c'est ça?
Son las afueras, esto es una ciudad
dormitorio. Oui, c'est la banlieue, une cité dortoir, avec les mêmes problèmes et la même passivité qu'ailleurs.
Y en el instituto, por ejemplo, sí se ven situaciones
dans mon lycée,
de pobreza, donde
la
gente no come toda
les élèves ne mangent pas
leur faim, hay mucha gente que no trae material,
ne
que no puede comprar material, hay muchos chavales con los dos padres
en paro. Il y a beaucoup d'enfants dont les deux parents sont au chômage.
Hoy contaba una chica con 13 años que a su madre la llaman para que vaya a trabajar 3 días.
Me racontait que sa mère est contactée pour travailler pendant 3 jours.
Luego otros 3 días. Y así.
Et puis pour rien pendant 15 jours. Et puis ça recommence 3 jours. Et voilà, comme ça.
Et alors ici, il y a une usine Coca-Cola qui est très grande, qui est une des plus grandes d'Espagne.
Está cerrada, pero los trabajadores sí que...
Elle est fermée.
Están haciendo un campamento precisamente para vigilar que no se lleven maquinaria, que no desarmen la fábrica. Llevan más de un año, el 30 de enero.
Ça fait plus d'un an. Ils ont commencé, je crois, le 30 janvier 2014.
Alors on arrive, ouais, effectivement, à l'usine Coca-Cola. Donc c'est une zone industrielle où il y a des entrepôts partout, des usines. Et donc là, on commence à voir un peu partout des banderoles de soutien à Coca-Cola.
Voilà, on y est. Le campement est là.
La semana, hace dos semanas, cuando vino
il y a
la policía,
deux semaines, quand la police est venue
hubo gente de Podemos
pour les déloger, il y a des gens de Podemos qui sont venus pour les soutenir.
La tarde, vinimos,
on est revenus l'après-midi et les jours suivants.
Il y a des banderoles partout. Il y a l'usine qui a l'air, qui est fermée, effectivement, avec les parkings vides. Et donc, il y a un campement, là, voilà. No al cierre de Coca-Cola. Non à la fermeture de Coca-Cola. Alors c'est le campement de la dignité. Ni un paso atrás, pas un pas en arrière. El puesto de trabajo no se vende, se defiende. Le poste de travail ne se vend pas, il se défend.
Et Andresito,
¿qué tal?
Ah,
y Andrés.
Andrés está en todo.
Andrés, il est partout.
En todo, en todo.
Dans toutes les luttes.
Sí. Estoy hablando aquí un poquillo de...
Alors on est dans une petite cabane en bois qui est construite ici devant l'usine avec un poêle à bois qui réchauffe un peu l'atmosphère parce qu'il fait très très froid dans cet hiver madrilène.
Ce gouvernement ne se préoccupe de rien. Ils ne font que mentir, mentir et mentir. Je m'appelle Andrés Sierra Poderoso. Je suis quelqu'un qui vient me battre contre toutes ces injustices, autant à Coca-Cola que dans l'enseignement public, que dans la santé. Ici, d'une façon ou d'une autre, il faut se battre contre toutes ces injustices causées par ces salopards. Ils ne sont pas humains. Je ne sais pas qui les a mis au monde, mais ils n'ont pas de cœur. Podemos, ça marche bien. Et je pense qu'ils auront la force et la puissance pour dégager toute cette faune. J'espère jusqu'en Laponie, comme on dit.
Moi, je suis Oscar. Je suis un travailleur de Coca-Cola, Fuenlabrada. Enfin, je suis licencié de Coca-Cola. On occupe ici 24 heures sur 24. On se relaie pour protéger l'usine, pour qu'il ne la démantèle pas.
Bueno, Podemos ahora mismo se sabe que es un partido de una reciente creación. O sea,
Podemos, on sait que c'est un parti très récent.
No sabemos qué vínculos van a tener a partir
on
de ahora.
On sait pas quelles relations ils auront avec les ouvriers, avec les patrons, avec les banques,
con los banqueros. Lo que nosotros sí valoramos es el apoyo que nos hacen a nosotros.
C'est le soutien qu'ils nous apportent.
Para nosotros es fundamental. Pour nous, c'est fondamental.
Que le conflit s'étende et que l'on parle de nous.
Cuanto más gente mejor de lo que se está cometiendo aquí.
Pour faire savoir au plus grand nombre ce qui se passe ici. Parce qu'au bout du compte. On a gagné au tribunal.
Que hemos ganado un auto, que nos
ils doivent
que
nous rembaucher ici, que à Fuenlabrada.
Que nos tienen que pagar,
ils doivent nous payer.
Que llevamos tres meses
ça fait trois mois que l'on n'a pas de revenus.
Et que aquí estamos a ver si la justicia ha dado un golpe en la mesa.
Il est temps que la décision de justice soit appliquée.
Pues, de agradecer siempre que nos mencionen en sus mítines y que incluso estén aquí y vengan a visitarnos.
Alors on les remercie qu'ils nous mentionnent dans leurs meetings et qu'ils viennent ici nous rendre visite.
«
Il faut rêver.
Et aujourd'hui, nous rêvons d'une Europe des citoyens, pas une Europe des marchands ni des banques, une Europe des gens et des peuples. Et permettez-moi de saluer ici quelques rêveurs. Ces jeunes qui ont rempli les places en mai 2011, ces citoyens exemplaires qui empêchent les expulsions avec leur corps au risque de leur liberté, ces héros et héroïnes qui ont défendu le droit à la santé et un travail digne pour les professionnels de la santé. Ces malades d'hépatite qui ont été obligés d'occuper des hôpitaux pour revendiquer leur droit à vivre. Cette marée verte qui nous a rappelé qu'il n'y a pas de démocratie sans éducation publique de qualité. Cette classe ouvrière courageuse, les travailleurs des aéroports privatisés, les travailleurs de Coca-Cola, vous êtes un exemple. Merci, merci à tous d'être ce mouvement populaire sans lequel le changement ne sera pas possible. Nous rêvons, mais nous prenons nos rêves très au sérieux.
Moi, je suis Jorge Lago, membre de la Direction Nationale.
D'où vous venez, Podemos ? Parce que la classe politique espagnole aujourd'hui est complètement discréditée. Toute la classe politique qui vient de l'alternance post-franquiste, complètement engluée dans des affaires de corruption, de détournement. Comment s'est créé ce mouvement qui aujourd'hui est susceptible de remporter beaucoup des échéances électorales qui viennent ?
D'où on vient ? On vient des gens de gauche, on vient des gens qui votaient même au Parti Socialiste ou au Parti Populaire, des gens qui votaient pas, des gens qui étaient mobilisés, des gens qui l'étaient pas. Il y a pas mal de gens qui ont travaillé dans le mouvement social, les gens qui ont travaillé contre les expulsions de logements, contre la privatisation de la santé, des gens qui, comme c'est mon cas, il y a 20 ans j'étais au Parti Communiste, mais ça fait 20 ans que je suis plus là et j'étais plutôt dans le mouvement social. Des gens qui n'étaient pas mobilisés ou idéologisés avant les CANSEM, les Indignados. Et donc tous ces gens-là qui n'étaient pas structurés, qui n'étaient pas définis et qui n'étaient pas articulés, c'est que Podemos a mis en place. Donc ça explique la transversalité de Podemos et ça explique aussi la possibilité de que Podemos ne traduise pas seulement une nouvelle idéologie ou force politique à la gauche de n'importe qui, mais un changement de façon de faire de la politique, une sorte de majorité sociale qui est celle qui est en train de dire d'une manière très claire et dans les rues et dans les enquêtes et dans les médias et n'importe où le régime politique du 78 est épuisé. Et il y a, avec la victoire de Syriza en Grèce et la très forte probable victoire de Podemos en Espagne d'ici quelques mois, il y a un changement en Europe qui a commencé par les Suds. La population, au moins en Grèce, en Espagne, en Portugal, l'Italie, l'Irlande, commence à dire ça ne peut pas continuer comme ça. Donc il y a des situations qui vont changer. Et ensuite, il faut voir aussi que ça n'est pas seulement un problème éthique, moral, de politique dramatique, inefficace, etc. Le problème, c'est que ça marche pas en termes économiques. Donc c'est toute une politique néolibérale d'austérité qui a été mise en place en Europe depuis 10-12 ans qui est en cause maintenant. Et une population en Grèce d'abord, en Espagne ensuite, mais qui va évidemment se contager au reste de l'Europe, qui dit basta.
Palais Royal à Paris. Syriza Podemos venceremos. Voilà. On va retrouver justement les membres du cercle Podemos de Paris qui sont ici, qui sont venus à cette manifestation. Alors voilà David Valenciano qui est un des membres de Podemos Paris. Alors David, il y a une corrélation entre ce qui est en train de se passer en Grèce et ce qui va se passer, on le pense, en Espagne ?
Oui, on espère. En fait, c'est ce qui se passe en Espagne et en Grèce, c'est qu'il y a des mouvements qui sont capables de bouleverser les rapports de force qui nous ont menés à cette situation-là, avec les mesures d'austérité en Europe. Et on espère que la victoire de Syriza en Grèce soit un prélude de ce qui va se passer en Espagne.
Alors, combien de personnes vous réunissez au cercle Podemos de Paris ? On était au cercle de San Blas Canillejas la semaine dernière. Il y avait une centaine de personnes qui se réunissaient quasiment toutes les semaines. À Paris, vous êtes combien ?
Ça change à chaque assemblée, mais on est une quarantaine, cinquantaine de personnes par assemblée. Et puis, il y a plus de 200 personnes qui nous suivent par l'Internet, 300 personnes, même s'ils ne participent pas plus activement. mais on sait qu'il y a plus de 200-300 personnes à Paris qui soutiennent la cause de Podemos.
Alors vous, Eva, vous êtes membre du cercle Podemos à Paris. Il y a beaucoup de jeunes, d'étudiants qui ont fini leurs études, qui sont partis, qui ont été obligés de quitter l'Espagne pour travailler, pour trouver du travail.
Il y a 2 millions d'émigrés.
2 millions.
Dans tout le monde d'Espagnol. Il y a pas mal de gens qui sont de la génération Y, qui sont dû partir parce qu'ils s'étaient préparés. On a fait, j'ai 2 licences, j'ai 2 masters, 2, et j'ai parlé 3 langues, mais j'ai eu pas la chance.
Vous n'avez pas trouvé de travail en Espagne?
J'ai trouvé un travail que j'ai gagné 1000 euros à Madrid, qu'avec cet argent tu peux survivre. Et qu'après, tu pouvais te faire virer d'un jour au lendemain. Donc, il n'y a aucune sécurité. Et tu ne peux rien dire parce que tu as la chance d'avoir un travail.
Et vous êtes confiante alors pour le processus Podemos qui est en route?
Je pense qu'il faut croire pour que les choses changent. Donc, si tu ne crois pas, tu ne vas pas arriver. Donc, c'est pour ça que je crois 100% et je suis mobilisée 100% pour que ça.
Il faut rêver, mais prendre ses rêves très au sérieux, c'est
mais
ça?
Mais oui, c'est ça. Exactement. En fait, je pense que c'est ce moment historique qu'on est dans l'ère digitale qui a permis de pouvoir changer la façon de travailler des partis traditionnels.
Alors Podemos a développé des outils justement numériques, oui, très performants justement pour pouvoir mettre en place une organisation transversale, mm-hmm, horizontale, de démocratie participative.
Oui, c'est ça. Avant, c'était beaucoup plus compliqué de faire une politique participative. Mais maintenant qu'on a les outils, on a la chance, je pense qu'il faut y aller.
Dans la continuité des Indignés, qui était Democracia 2.0, quoi, la démocratie. Exactement. 2.0. Quoi.
Ouais. En fait, le mouvement indigné, il est né spontanément. Les gens, ils se sont rassemblés. C'est vrai qu'il y avait déjà des petits mouvements démarrés. Et le problème, c'était que ce mouvement, il n'était pas vraiment organisé. Donc, on était en train de réfléchir, on était en train d'agir, mais on ne pouvait rien faire si on voulait arriver vraiment à changer les gouvernements. Donc c'est pour ça qu'après, CECANSEM a évolué et finalement ça a donné les partis Podemos.
C'est, pour vous, c'est la traduction politique de ce mouvement citoyen qui était le 15M, c'est ça?
Absolument, absolument. Podemos, ce qu'il fait, c'est de réunir tous les mouvements qu'il y avait après le 15 mai et donner la traduction politique pour ces mouvements sociaux qui étaient dans la rue déjà.
Hoy soñamos con una Europa de los ciudadanos, no de los mercaderes y los bancos, una Europa de la gente y de los pueblos. Permitidme que salude a unos cuantos soñadores. Esos jóvenes que llenaron las plazas de mayo, esos ciudadanos ejemplares que pararon desahucios.
La mochila que llevamos va cargadita de piedra, del abismo ya no viene y está en mala condición. Solo nos queda la rumba y una buena bulería, un bailecito por tango y el cante del camarón. Ya veremos. Timbero,
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 Timbero, Timbero,
On dirait que la passivité s'estompe. L'Espagne et la Grèce s'organisent pour résister aux politiques d'austérité et proposer des alternatives. D'ailleurs, demain, dimanche à Paris, une manifestation de soutien à Syriza et au peuple grec est prévue. Départ à 15h, place de la République. Les membres du cercle Podemos de Paris seront très certainement là.
On dit que quand tout roule, on ne le remarque même pas. Bienvenue chez HSBC Premier. Votre personnel économie est entre de bonnes mains.
HSBC, les rois de l'évasion fiscale.
Plus de 100 000 clients par le biais de 20 000 sociétés offshore entre novembre 2006 et mars 2007.
Des dignitaires étrangers.
Le roi du Maroc, le roi Abdallah de Jordanie.
Du showbiz.
Des princes saoudiens soupçonnés d'avoir financé Al-Qaïda.
L'argent sale du terrorisme et du trafic de drogue.
HSBC, au cœur de l'enquête, aurait encouragé tout cela.
180 milliards d'euros dissimulés dans des paradis fiscaux. C'est plus de la moitié de la dette grecque.
HSBC, the world's local bank.
Après LuxLeaks, SwissLeaks. En novembre dernier, la presse appuyée sur les fuites d'un lanceur d'alerte, Antoine Deltour, dévoilait l'industrie de l'évasion fiscale des grandes multinationales dans le Grand-Duché du Luxembourg. Et cette semaine, c'est le tour de la Suisse, avec là aussi un lanceur d'alerte, que certains en Suisse appellent une balance, Hervé Falciani, et une cible, la gigantesque banque HSBC, dont vous entendez en ce moment même la délicieuse musique sirupeuse. Avec dans des listings détaillés, plus de 100 000 clients sur 5 mois seulement, de fin 2006 à début 2007, la preuve de plus de 180 milliards d'euros dissimulés au fisc, dont près de 6 milliards pour les seuls Français. C'est pourquoi nous nous sommes empressés d'aller voir un éternel contenteur de la machine à blanchir suisse, c'est Jean Ziegler, 80 printemps. Chercheur en sociaux d'abord, homme politique ensuite, mais engagé de toujours dans la lutte contre la misère et surtout contre les causes de la misère, à ne pas se contenter de pleurer ceux qui subissent, mais de retourner la colère contre ceux qui profitent, au premier rang desquels les banques et la Suisse, celles-là même qui sont à poil avec SwissLeaks. Lui, vous ne pourrez pas dire qu'il ne vous l'avait pas dit. Voilà près de 40 ans qu'il nous le répète, quelque chose ne tourne pas rond chez les Helvètes. Alors nous avons eu envie de l'entendre, Jean Ziegler, lui qui a sous-titré son dernier livre, « Choisir son camp ».
Vous m'entendez bien là?
Je vous entends bien, et vous-même?
Oui, oui, oui. Si je veux plus fort, je mets ça.
Ouais, merci. Là-bas.
D'accord, merci, on y va.
C'est très bien, Jean Ziegler, vous êtes en duplex depuis Genève. Et on a fait appel à vous, Jean Ziegler, au sujet de ce livre qui est sorti il y a quelques mois de ça déjà, avec ce titre fracassant « Retourner les fusils, choisir son camp ». Alors il ne faut peut-être pas y voir là une connotation trop martiale, trop militariste, mais c'est bien, si j'ai bien compris Jean Ziegler, vous, sociologue engagé, ancien élu suisse et actuellement vice-président du Conseil consultatif des droits de l'homme des Nations Unies, c'est un itinéraire politique, sociologique et intellectuel. Me trompais-je?
Oui, non, pas du tout. D'abord, je vous remercie de votre invitation, qui me fait plaisir. Le titre du livre que vous avez cité, « Retourner les fusils, choisir son camp », évidemment, fait appel aux armes démocratiques. La France, l'Allemagne, la Suisse, etc., sont des états de droit où le citoyen, s'il se réveillait, aurait en main tous les armes démocratiques nécessaires pour changer cet ordre cannibale du monde. Je prends un exemple de l'actualité, qui est ce scandale absolu de la HSBC, de cette banque privée genoise dont on découvre maintenant qu'ils abritent 100 000 comptes appartenant à des trafiquants de drogue, à des financiers du djihad terroriste, à des fraudeurs massifs du fisc français, européen et ailleurs.
Et des starlettes et des élus politiques.
Oui, oui, c'est vrai, on peut allonger la liste, vous avez raison. Des stars ou starlettes, des élus politiques, etc., etc. Tous des gens qui, d'une part, s'il s'agit de Français, ont piller le fisc français, voler le peuple pour ne pas payer d'impôts. Ensuite, les barons de la drogue colombienne, sicilienne, du Mexique, etc. C'est également des seigneurs du sang. Et ensuite, il y a tous les dictateurs du tiers-monde, tous les truands dont on découvre que leurs comptes noirs, illégaux, sont à Genève, au quai du Mont-Blanc, derrière les murs, notamment de cette banque HSBC, qui est aujourd'hui l'actualité, mais toutes les autres, enfin la plupart des autres, 365 banques sur le territoire helvétique.
Une par jour, donc.
Une par jour. Vivent essentiellement de la fraude fiscale. Or, visiblement, les autorités étaient incapables, notamment en Suisse, où on a un procureur fédéral qui était totalement absent, qui n'a pas ouvert une enquête quelconque, alors qu'il a les listes de Falciani, de cet informaticien qui est parti avec les listes depuis 5 ans. Le procureur de la Confédération n'a pas ouvert une enquête, protège la banque. En Suisse, non seulement aucune enquête a été ouverte, mais en plus, la seule chose que le procureur de la Confédération a fait, c'est de lancer un mandat d'arrêt international contre Falciani, qui est donc
à l'origine de ces fuites.
C'est ça. Mais ça vous montre la perversion de la situation helvétique. Enfin, moi, j'ai été très longtemps député de Genève au Parlement de la Confédération. Je connais vraiment bien ces mécanismes du déni et de la complicité de nos autorités en permanence avec les truands bancaires. dans ces situations-là, et c'est là où mon livre voudrait être un livre, non pas d'utopie, mais un manuel de combat, dans cette situation-là, il reste une seule espérance, c'est les citoyens qui doivent se lever, faire usage de leurs droits constitutionnellement garantis et utiliser ces armes, retourner ces armes contre des autorités qui ne font pas leur travail. La Suisse, encore une fois, est une très vieille démocratie, a des institutions civilisées, est une démocratie directe. Seulement, ces institutions ne fonctionnent pas quand il est question des banques.
Eh bien, je le dis sans haine et sans plaisir, mais Monsieur Ziegler, vous êtes un imposteur. C'est notre pays que vous mettez en cause. Et vous allez à l'étranger répandre ce crachat dans la fondue.
Jean Ziegler, la Suisse, selon vous, blanchirait en toute connaissance de cause l'argent de la drogue. Les banquiers suisses seraient les complices des marchands de la mort.
Vous êtes en colère et vous faites mal à votre pays, comme si vous aviez vous-même mal à la Suisse.
Jean Ziegler, figure anticapitaliste et anti-banque, un des Suisses les plus connus du monde.
La Suisse est en train de subir un pourrissement croissant de toutes ses institutions par la faute et la loi des émirs de la banque et de la finance, complices du crime organisé. Alors, Jean Ziegler exagérerait-il ?
Jean Ziegler, cette affaire SwissLeaks, ce qu'elle apporte de nouveau, c'est que pour une fois, on a les preuves. On a une photographie à un instant T, pendant quelques mois, des mouvements sur une banque. Et mais vous, ce combat, vous le menez depuis l'intérieur même de la Suisse, depuis des années. Je vous rappelle, en 76, une Suisse au-dessus de tout soupçon. 90, la Suisse lave plus blanc, c'est le titre de vos livres. La Suisse, l'or et les morts en 97. Et ce que vous rappelez dans ce livre, Retournez les fusils, c'est que vous avez été la cible de ces banquiers qui vous ont attaqué, qui vous ont harcelé judiciairement et vous le dites même, qui vous ont ruiné à force de procès perdus.
Oui, vous êtes gentil de m'attribuer autant de vertus. Je l'ai
en tout cas, de
pas.
La pugnacité.
D'abord, je dois dire que j'étais totalement inefficace. Quand la Suisse lave plus blanc est sortie, qui anticipait déjà un certain nombre de ces stratégies criminelles qui sont au cœur même de l'activité bancaire helvétique, j'ai eu 9 procès sur le dos. Mon immunité parlementaire a été levée au Parlement de Berne.
Ce qui n'est pas rien, quand même.
Fédérale. Ce qui n'est pas rien, ça montre qu'ils étaient
inquiets.
Ils ont le bras long. Et j'ai perdu les 9 procès. Et j'ai dû payer plusieurs millions de francs suisses de dommages et intérêts. J'étais évidemment totalement, absolument, complètement ruiné. Et donc j'étais inefficace puisque la façade sanglante des banques suisses était totalement solide. Ils déniaient, ils disaient quoi, donc fraude fiscale, ça n'existe pas. L'argent du sang des pays du tiers-monde, on n'en a jamais entendu parler. L'argent des mafias, on ne sait pas ce que c'est. Un déni total. Bref, j'étais étalé, ruiné. Mais j'ai continué le combat. Et aujourd'hui, miraculeusement, par le courage d'un informaticien, tout à coup, pour une des 365 banques qui agissent sur le territoire helvétique, une des principales, devient transparent totalement le mécanisme du pillage du fisc français, le mécanisme du pillage des réserves de devises des pays les plus pauvres. Et c'est là où l'opinion publique européenne, et je parle des pays qui sont des vraies démocraties vivantes comme la France, doit se lever pour mettre fin au banditisme bancaire helvétique.
D'abord, le marché a éprouvé le besoin de souffler après son rallye haussier.
On voit bien que le marché va attendre d'y voir un petit peu plus clair.
L'imagination des marchés est encore plus grande que celle des gérants.
Des rumeurs sont venues animer le marché et le rendre très nerveux.
Les marchés semblent vouloir se stabiliser au lendemain d'un sell-off.
Les marchés commencent quand même, à anticiper un risque accru de défaut grec.
Je déteste d'abord le terme de marché financier. Quand on dit « Ah, les marchés financiers ont sanctionné telle ou telle décision de tel gouvernement par la délocalisation des industries » ou par exemple quand la France prend des mesures de réforme, eh bien, les riches partent pour échapper aux impôts supplémentaires. Donc on dit pudiquement « Ah, les marchés financiers ont réagi, les marchés financiers ont désavoué telle ou telle décision.
C'est ça, on dit les marchés un peu comme on disait les divinités à l'époque.
Oui, vous avez tout à fait raison. C'est comme dans l'ancien régime mondial, Dieu a décidé, donc, etc. Maintenant, c'est les marchés financiers. Or, ce n'existe pas, les marchés financiers. C'est-à-dire, il y a des opérateurs, des hommes, des femmes qui prennent des décisions. Quand tel ou tel banquier, restons avec la HSBC à Genève, c'est quelqu'un qui a pris la décision. C'est-à-dire Stephen Green, le président de la HSBC, était pendant ces années-là dont nous parlons, 2007, 2008, 2009, etc., du temps de Falciani, était le président de la banque. Hélas, aujourd'hui, il est ministre du commerce du gouvernement Cameroun, du gouvernement conservateur à Londres. Évidemment, ça ne facilite pas la poursuite des crimes qu'il avait commis quand il était président de la banque. Mais ce ne sont pas les marchés financiers, un nuage noir quelque part, une sorte de puissance inatteignable, mystérieuse, qui a décidé de ces crimes. C'est des hommes, des femmes, et pas des marchés financiers, qui ont pris les décisions et qui doivent aujourd'hui rendre des comptes.
BBC. 13 février 2015.
Stephen Green was the top
Stephen Green était le grand patron de HSBC.
He earned 3 million pounds a year.
Il gagnait 4 millions d'euros par an.
I tracked him down.
Et j'ai retrouvé sa trace.
You know when you were in charge of HSBC?
Dites-moi, quand vous étiez en charge de HSBC?
Non, pas de commentaire.
Mais votre banque aidait les gens à échapper à l'impôt, pourquoi avoir laissé faire?
J'ai déjà dit, je ne ferai pas de commentaire sur les activités de HSBC.
Mais les gens qui regardent cette émission, eux, ils payent leurs impôts, alors que votre banque aidait à l'évasion fiscale.
Désolé, je pense que vous devriez en parler avec HSBC.
Juste un mot, sir. Pas un mot? Vous n'avez rien à dire pour justifier ce qui s'est passé?
No word.
Pas un mot.
Jean Ziegler, je serais curieux de savoir quel regard vous avez sur des initiatives politiques qui sonnent étrangement proches de ce que vous êtes en train de décrire et qui se passent aujourd'hui en Europe. C'est par exemple Syriza et le gouvernement Tsipras en Grèce, et c'est par exemple Podemos et la campagne de Pablo Iglesias qui est en tête en Espagne, et qui, eux, reposent sur un programme de récupérer la démocratie et combattre les banques, combattre la dette.
Oui, en tout cas, Syriza et Podemos, pour prendre que ces exemples-là, c'est des signes évidents, et là je parle en tant que sociologue, des signes évidents de cette insurrection des consciences à venir. La force de la démocratie est quand même quelque chose de très, très impressionnant. C'est-à-dire le mur de l'argent qui écrase les institutions démocratiques jusqu'à maintenant, eh bien, il y a des fractures qui apparaissent. Podemos va arriver au pouvoir démocratiquement. Syriza a déjà arrivé au pouvoir, qui se dresse avec un programme radicalement démocratique et d'intérêt public. Par exemple, on parle très peu, Syriza lutte évidemment contre la dette grecque, contre la Troïka, contre ce système. Ils veulent d'abord changer radicalement la situation du peuple grec, mais ensuite s'attaquer à un système mondial de banditisme bancaire, notamment en combattant, en mettant hors la loi toutes les places offshore, c'est-à-dire les paradis fiscaux. Donc, une vision qui est à l'avant-garde même de tout un mouvement européen ancré dans une opinion publique qui se réveille et qui exige l'abolition des paradis fiscaux. Ce serait extrêmement simple. On devrait forcer toutes les banques, institutions financières, etc., etc., qui sont actives sur les marchés financiers, qui sont actives dans l'économie mondiale, de refuser tout paiement qui provient d'une place offshore, de les assécher sous pression de l'opinion publique. C'est pour ça que mon livre, ce n'est pas un livre d'utopie, mais c'est un manuel de combat. Retourner les fusils, choisir son camp, veut dire saisissez-vous, vous citoyennes, citoyens, qui avez la chance de vivre dans des états de droit, dans des démocraties, eh bien saisissez-vous de vos armes constitutionnelles pour forcer vos gouvernements d'appliquer enfin les lois de la transparence, de la lutte contre le lavage de l'argent du crime, les lois contre l'acceptation, le recyclage de l'argent du sang des pays du tiers-monde. Nous pouvons le faire, nous devons le faire.
Et c'est pour ça, Jean Ziegler, que vous dites choisir son camp. Donc, en somme, si je voudrais conclure, on vit une époque formidable.
Totalement. Vous savez ce qui est. Le temps de vie est très court. Chacun d'entre nous, ici, quand on est blanc et européen,
on a un peu plus de chances de vivre longtemps que si on est.
On vit exactement le double si vous êtes français que du Rwanda ou du Costa Rica. statistiquement, mais l'insurrection est plus urgente que jamais. Et comme vous dites, le sous-titre de mon livre, « Choisir son camp », chacun de nous, il n'y a pas d'impuissance en démocratie. Personne ne peut dire « je n'ai pas su aujourd'hui, je ne peux rien faire » quand on est français, quand on est suisse, quand on est anglais, quand on est allemand. Et l'insurrection des consciences est proche.
Je ne sais pas s'ils ont écouté ou lu Jean Ziegler, mais en tout cas, pas plus tard qu'avant-hier, une quinzaine de militants du collectif basque Bizi sont allés dans une agence bancaire HSBC à Bayonne et ont saisi les chaises pour dénoncer symboliquement le rôle joué par cette banque dans l'organisation de l'évasion fiscale en France.
Comme un briquet court.
C'est l'histoire d'un petit village normand de 1200 habitants où vivent Anaïs et ses trois enfants. Convertie à l'islam depuis plusieurs années, Anaïs porte le hijab, un voile qui ne couvre pas son visage. Et pendant plus d'un an, sa présence au village est acceptée par les habitants. Mais depuis les attentats de début janvier, l'ambiance a changé dans le village. Et pris d'angoisse, le petit village normand s'est emporté. Les uns se sont montés contre les autres. Anaïs contre le directeur de l'école, Anaïs contre l'institutrice, le directeur contre Anaïs, et même la mairesse du village s'en est mêlée. Alors, ce qui n'aurait pu n'être qu'une dispute entre une parent d'élève, Anaïs, et un directeur d'école, a pris une allure de drame national. Rue des Flandres. Ça doit être la rue principale parce qu'il y a la mairie. Juste là, à droite, en face, un bar tabac, PMU, qui a l'air fermé, mais qui ne l'est pas. La poste, puis quelques maisons. Il y a pas mal de volets fermés. C'est un village de 1200 habitants en Normandie, et qui est, à 13h, quasi désert. Et là, je me trouve devant l'école, et j'attends la sortie de la classe. À 15h30. Donc Iliès, le fils d'Anaïs Bessaya, est scolarisé au CP dans cette école. Et juste en face de l'école, il y a la mairie. Bonjour messieurs, dames.
Bonjour.
Bonjour. Vous attendez vos enfants?
D'accord. Oui, ma petite fille.
Ah, il faut plus parler à la personne qui est concernée.
Parce qu'il y a une, c'est une femme, l'histoire, c'est une femme qui est voilée, c'est ça, qui s'est convertie. Mais il y en a d'autres, des femmes voilées qui viennent chercher leurs enfants?
Non, il n'y a qu'elle.
Il n'y a qu'elle.
Mais tant qu'elle ne me dit rien. Tant qu'elle ne me dit rien, moi c'est principal, le restant.
Vous ne voulez pas qu'elle vous parle?
Non, puis je ne cherche pas à y causer non plus. Non, on ne va pas trop se mêler de ça. Je vous remercie.
Merci, hein. Je vous laisse tranquille. C'est elle, non? Il y a une femme oui. Voilée là, qui est là. On peut peut-être essayer d'aller lui parler.
Après, je...
Bonjour.
Bonjour,
Anaïs.
Je reste toujours en noir.
Un voile noir.
Voilà. Oui, mon pantalon est large, ma veste est large, mais je suis une maman, je suis un être humain, j'ai des sentiments, je pense que je suis comme tout le monde. C'est pas parce que j'ai une tenue différente que d'autres femmes que ça fait de moi quelqu'un d'exceptionnel.
Et vous restez pas discuter parfois avec les parents d'élèves, avec les autres?
Non, je rentre chez moi, je prends pas le temps de discuter. De toute façon, je vois pas qu'est-ce qu'on pourrait très bien se dire, alors voilà. Oui.
Bonjour. Je me demandais...
Oh non, je me demande quoi? Oulala.
Bonjour.
Bonjour, allez-y, entrez.
Merci.
Bonjour, Iliès.
Bonjour.
Vous êtes blonde, Anaïs. Blonde, aux yeux bleus, verts.
Moi, vert, ouais. C'est ça, les yeux tirés en amande, en forme de biche, comme mon papa dit. J'ai le teint typiquement français, hein. Je suis blanche, avec des taches de rousseur. Vous remarquerez que je ne porte pas le voile, parce que je suis chez moi, nous sommes entre filles. Les cheveux attachés, je suis légèrement maquillée quand même.
Avec des petites boucles d'oreilles.
Des petites boucles d'oreilles, parce que moi, je le revendique, malgré que ça ne se voit pas dehors, je suis très coquette.
Et avec les trois enfants qui sont là, dans la maison.
Voilà, donc Iliès, on a qui joue dans sa chambre, et on a Jenna et Ziyad qui regardent la télé.
Anaïs, vous avez quel âge ?
J'ai 26 ans.
Là, on s'est retrouvés aujourd'hui parce que vous avez eu des problèmes, on peut dire, avec l'école.
Le problème commence le 15 janvier, donc quand je reçois un coup de téléphone donc, du directeur de mon fils. Et donc du coup, il commence à m'interroger sur mes opinions religieuses. Donc je comprends pas trop le comment du pourquoi, donc je lui demande. Il me répond pas, il reste très évasif sur ses réponses. Et il insiste en me demandant mes revendications envers lui, envers l'école, si j'ai de l'agressivité, de la colère toujours envers lui ou envers l'école. Par contre, oui, dans la conversation, il finit par me rappeler une phrase que j'ai eue envers lui, donc datant du mois de septembre, début septembre, disant que je lui dis qu'il brûlerait en enfer. Alors là, par contre, je commence un petit peu à être agacée parce que je lui dis que ce que j'ai pu lui dire au mois de septembre n'a rien à voir avec aujourd'hui, qu'on est le 15 janvier.
15 janvier, c'est quelques jours après les attentats à Charlie Hebdo, voilà. Et après la prise d'otage à l'épicerie Kacher.
C'est ça. Donc après, oui, je rentre dans le vif du sujet en lui demandant si voilà, il y avait un rapport avec les attentats. Je lui dis que ok, je suis convertie, que je porte le voile, que je suis musulmane, mais que je suis pas terroriste. Je prends peur du coup de son appel. J'en informe mon mari, je l'appelle aussitôt et je vous cache pas, un peu choquée et puis surtout vexée qu'on me prenne pour ce que je suis pas. Donc j'en pleure. Mon mari me dit, écoute, t'appelles la police. Donc je suis ses conseils, donc j'appelle le 17.
Ce qu'on n'a pas dit encore, c'est que votre fils avait eu des problèmes aussi à l'école.
Voilà, Ilyès est rentré de l'école en me disant qu'ils avaient fait un spectacle. Donc alors je rentre dans les détails en me demandant c'était quoi comme spectacle. Et là il me dit qu'il fait le rôle d'un méchant avec un autre petit copain et qui me dit qu'il tue le policier. Donc je lui dis bon d'accord et je lui dis mais pourquoi t'as fait le méchant ? Alors moi il me dit qu'il voulait faire le policier mais que la maîtresse elle lui a dit non qu'il ferait le méchant. Du coup moi je me réfère à cette histoire-là des frères Kouachi.
Là, on est rentré dans l'école. Et les petits porte-manteaux, les écharpes oubliées. Et donc, on est avec l'institutrice qui remplace l'institutrice qui est en arrêt maladie et qui est impliquée dans le conflit.
Je suis prof, oui, depuis 30 ans maintenant, plus de 30 ans.
Et vous, vous êtes instit aussi, hein ? Vous êtes directeur et prof.
Oui, oui, tout à fait. On nous reproche... d'avoir fait une reconstitution des attentats de Charlie Hebdo. On nous reproche d'avoir fait un spectacle de ça. On nous reproche d'avoir donné un rôle de terroriste et qu'on aurait même nommé Kouachi à un élève. Et on m'accuse même, moi, nommément, d'avoir forcé tel élève spécialement à faire ça. Voilà. Sauf qu'il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu de reconstitution. Il y a eu une minute de silence.
Et ensuite, il y a eu du travail en classe. Voilà. Une fois qu'on a eu fait la minute de silence, en fait, on n'a jamais reparlé des attentats. On a parlé de liberté, de droit, de choses comme ça, mais on n'a pas reparlé des attentats. Des cours d'éducation civique, voilà.
Donc c'est des accusations très précises, puis en même temps, il n'y a rien.
C'est de manger un morceau, là, dans le bar. Vous suivez les courses, là, monsieur ? Alors, vous avez parié sur qui ?
Moi, il est distancé, j'avais parié sur le 4.
Comment vous vous appelez ?
Serge.
Vous jouez tous les jours ?
Presque.
Vous avez entendu parler, là, en ce moment, il y a eu une histoire à l'école ?
Oui, il y a une affaire, mais je sais pas ce qui s'est passé exactement. Ça m'étonne un petit peu de l'école. Hein. Ouais, ouais. Parce qu'ils sont assez gentils, ici, à l'école. Hein. Ouais. Pourtant, j'étais seul avec un petit garçon, donc ils s'en occupaient. Dès qu'il était un petit peu malade, tout ça, il téléphonait tout de suite à la maison, tout. J'ai jamais eu de problème. Non, c'est bien.
Mais ici, dans le village, il n'y a qu'une femme voilée ?
Ah, je sais même pas. Moi, ça me dérange pas. Hein. Comme je dis, il y a de la place pour tout le monde, moi, je m'en fous. Hein.
Tout le monde se connaît ici ?
Oui, oui. En gros, ouais, tout le monde se connaît. Ouais.
Ilyès. Ilyès.
se trouve au Manoir sur Seine dans l'Eure. C'est une petite ville, une toute petite ville. Il y a 1200 habitants.
C'est ça.
Et vous, ça fait longtemps que vous habitez là ?
Ça va faire un an. Je suis arrivée ici le 1er novembre 2013. Voilà. Donc on va dire un petit peu plus d'un an et demi maintenant. Pour moi, je l'ai dit dès le départ haut et fort, c'est un problème d'islamophobie, de racisme.
Et c'est quoi leur problème ? C'est le fait que vous soyez voilée ?
C'est ça qui dérange. Comme on dit chez nous, ça fait alhamdoulilah, ça fait 8 ans que je suis convertie à la religion musulmane. Et le voile, ça a été un déclic depuis un an. Mais quand je suis arrivée sur la commune, il est vrai que je ne le portais pas. Donc du coup, pour eux, comme j'ai pu entendre récemment, c'est une provocation de ma part. Alors c'est pas ça, c'est que c'est mon choix, c'est ma religion, c'est comme ça que je veux le vivre et c'est comme ça que je suis.
Votre mari, lui, est franco-algérien ?
Voilà, mon mari est algérien. Il est né en Algérie et ça fait depuis 2001 qu'il est arrivé en France. Et on aime tous les deux la France comme on aime tous les deux l'Algérie. Je renie pas mes origines, comme j'ai pu le lire, je suis raciste. Non, j'ai été élevée par des parents français, athées. À 13 ans, j'étais attirée par les Arabes. J'aimais cette culture, j'aimais ce sens chaleureux de la famille. Je sais pas, j'étais attirée par, oui, le teint mat, les yeux noirs, le couscous, les gâteaux. Voilà, toutes ces choses-là. Mes enfants ont la double nationalité. Ils sont autant français que musulmans. Mais après, c'est un choix de vie à la maison qui est différent de celui de dehors. Mais ça reste des enfants comme les autres. Vous pouvez le voir à la maison, on a une maison ordinaire avec des meubles... D'accord, oui, on a un petit cadre là-bas, par exemple, qui représente donc la définition. Donc, Allahu Akbar, Dieu est grand. Et effectivement aussi, là, j'ai un cadre avec un verset du Coran qui dit que voilà, Dieu est grand, qu'il n'a pas été engendré, qu'il n'engendre pas. Et ça fait partie également de la décoration, puisque comme vous constatez, il est gris. Donc, ça va avec la décoration. Par contre, il y a très peu de photos. Même si c'était un petit déchirement au début, j'ai enlevé toutes les photos de mes enfants. Je n'en mets plus, parce qu'il est dit dans la religion, c'est pareil, que tout ce qui était représentation et photo, c'était déconseillé, parce qu'on dit que les anges ne rentrent pas, en fait.
Moi, ce qu'elle me disait, c'est que finalement, son problème, c'est un coup de fil que le directeur, donc oui. Vous... lui auriez passé...
Non, je l'ai passé. Hein. J'ai passé un coup de fil.
Le 15 janvier.
J'ai passé un coup de fil le 15 janvier. C'est-à-dire qu'il y a un directeur d'école qui a appelé un parent d'élève. Waouh. Donc, je venais de raccrocher avec un autre parent d'élève et j'ai passé mon autre coup de fil. Parce qu'en fait, il y a un passif avant. Et donc, à un moment donné, il faut... combler ce passif, et des fois quand les gens font pas le premier pas vers vous, bah c'est à moi de les faire, quoi. Voilà. Il y a un élève de l'école qui a été agressé verbalement par cette dame, et moi après j'étais insulté une première fois, après j'étais insulté une deuxième fois, après j'ai laissé passer du temps, j'ai pas porté plainte, j'ai fait remonter les informations.
C'est quoi les insultes ?
Alors pour l'enfant c'était « si tu continues comme ça, je te déchire ta race ». C'est ce que la dame a dit à un enfant de CP qui était sous notre surveillance. J'ai fait donc une lettre pour rappeler le règlement. Et après cette lettre, j'étais la voir au portail pour savoir si elle comprenait un peu le sens de mon rappel au règlement. Et là, elle me dit ouais, « je ne vous parle pas, je ne vous calcule pas, je ne vous connais pas, je ne veux pas vous parler ». Et puis... c'est dur, j'ai du mal à le dire, mais on m'a dit que j'étais un mécréant et que j'irais pourrir en enfer.
Un mécréant ?
Ouais.
Elle vous a dit ça au mois de septembre ?
Donc ça, c'était le 2 octobre. J'ai fait remonter et puis j'ai laissé passer du temps.
Ce qu'elle dit, c'est il m'a appelé pour me dire, en gros, vous êtes musulmane, donc forcément, il y a un problème. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous radicaliser ? Puisque on était dans un moment...
J'ai pas parlé du tout. Moi, je n'ai jamais parlé de religion. Ses parents, par contre, m'ont toujours parlé de religion, à un moment donné. Mais bon, c'est vrai que lors de ce coup de fil, elle a dit qu'elle se sentait stigmatisée dans le village. Ça, c'est sûr. Elle m'a parlé de parents qui se moquaient d'elle, personne ne disait bonjour.
Je rentre dans le bar.
Bien joué.
Il a gagné.
Ah. De toute façon, il n'y a pas eu d'avoir des problèmes. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc, l'école, je ne vois pas en quoi ça les dérange. Déjà, d'une, pourquoi l'appeler elle alors qu'il y a plein de personnes, quoi. Je suis désolé. Donc ça, c'est, moi, pour moi, ça c'est faire une histoire pour rien du tout. Elle avait pas de problème avant. Avant les attentats, elle n'avait pas de problème. Donc pourquoi elle aurait des problèmes après les attentats?
Vous êtes musulman ou pas?
Oui.
Vendredi dernier, vous avez été prise à partie à la sortie de l'école.
Voilà, donc vendredi, ce vendredi, j'entends des courageuses mamans derrière qui crient « C'est toi la raciste, il n'y a pas de raciste ici ». Ce matin, je vais à l'école, mais je ne vous cache pas, j'y vais à la dernière minute pour éviter le contact. Parce que j'en ai marre des moqueries, j'en ai marre des insultes, j'en ai marre d'être dévisagée comme si j'étais la vilaine sorcière du manoir. Voilà, je veux qu'on me foute la paix.
Donc, mais Anaïs, est-ce que vous avez des amis ici? Est-ce que vous voyez beaucoup de monde? Est-ce que vous êtes soutenue?
Des amis, non. Pour moi, je vous dis, je ne sors pas. Mon trajet n'est que l'école. C'est que l'école. Voilà, il n'y a rien. Il n'y a pas de parc de jeux, il n'y a pas de piscine, il n'y a pas de cinéma. Il n'y a vraiment rien. Ce n'est pas une question que je suis insociable. C'est que dès le départ, de toute façon, même avant de porter le voile, ça reste une petite ville où tout le monde se connaît très très bien, où on ne laisse pas les gens s'intégrer. Donc non, des amis ici, j'en ai pas. Je suis là, je regarde les murs et je me dis, mais quand est-ce que je vais partir, quoi?
Hop, 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 hop. En plus, tu le vois faire et tu dis rien. Je vais me fâcher. Et la télé, là. Non, non, là. Tu m'as fait assez de lignes dessus, déjà. Stop, là. Je me fâche, je dis elle. Non, 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 on se calme.
Bah, elle avait quand même une attitude très agressive, hein. Et puis c'est quand même elle en premier qui a parlé de mes crayons et d'aller brûler en enfer. C'est pas nous.
Voilà, moi j'ai fait quelque chose d'assez vrai, un peu informel, un petit peu humain. Je passais juste un coup de fil. Et une heure et demie, les gendarmes arrivent, quoi. Les gendarmes arrivent.
Arrive où?
Voilà, de mon bureau, débarque.
À l'école?
Ouais. J'en suis encore stupéfait, en fait. Moi, je commence à en avoir assez.
Mais finalement, dans la tournure que ça prend, ça se passe plutôt sur le juridique. Donc, c'est-à-dire que maintenant, j'ai été encore réentendue vendredi après-midi sur ma plainte du 23 janvier. Mon fils, une fois de plus, a été entendu pendant une heure et demie sans ma présence par une gendarme.
Mais il a quel âge, Ilyès ?
Ilyès a 6 ans.
Voilà. À 6 ans, il est au CP ?
Il est au CP, c'est ça.
Il a été convoqué à la gendarmerie.
Voilà, c'est ça.
On mange pas le sucre.
Non,
ça. On va bientôt manger.
Tu veux ramener des gâteaux ?
Amélie, excuse-moi, tu peux y ouvrir la porte de la cuisine ? Je vais faire un merci parce qu'elle est là-haut. Et là, du coup, vous avez porté plainte contre X.
J'ai porté plainte contre X pour les menaces de mort que j'ai reçues et porté plainte contre le parent d'élève. Voilà, pour la première fois de ma vie, j'ai porté plainte.
Vous avez reçu des menaces de mort?
Oui, au téléphone de l'école, nommément. En une heure et demie, on a reçu jusqu'à une quinzaine de coups de fil comme ça. Et je pouvais pas débrancher parce que justement j'attendais un appel. Mais c'est vrai que du coup, le canal par lequel la calomnie est venue, c'était un canal particulier, je crois. Je sais pas si vous avez fait le. Mais bon, du coup, c'était peut-être des gens qui étaient un petit peu remontés, quoi. Qui sont enclins à croire en tout cas à l'islamophobie. Voilà, on peut dire ça. Voilà.
En fait, ce qui vous blesse le plus, c'est ce qui s'est écrit sur Internet à votre propos, c'est ça?
À partir du moment où j'ai reçu des menaces de mort, nommément, hein, c'était pas au directeur d'école, c'était mon nom et prénom, et qu'on parle de ma famille, et que j'étais dans les pages jaunes, oui, j'ai tendance à prendre les choses un peu à cœur. Sérieusement, quoi, oui. Moi, je viens plus à 7h du matin travailler, voilà. Je viens à 8h, quand c'est clair, quand il y a du monde dans le village. J'ai envie de repartir assez tôt après le travail.
Si on continue toute l'année comme ça, ça va être épuisant. Mais on n'a rien à se reprocher, donc on lâchera pas le morceau de toute manière. On n'a rien fait, on est irréprochable, on est laïque. Jusqu'au bout des ongles, tout ça, ce sont que des mensonges.
Toute la journée, je laisse les volets fermés.
Vous avez peur ?
J'ai peur. Il y a une psychose qui s'est installée récemment.
Je vois la chouchou. Quoi ? Quoi ? Calme ? Allez, la tutouille.
Si vous avez reçu des menaces ?
J'ai reçu des menaces, oui. Des choses qu'on m'a bien fait comprendre que de musulmane, on allait me refaire goûter au porc, diverses façons, ou même des insultes, hein, ou que je ne serais pas toujours accompagnée. Pour moi, c'est des pauvres personnes.
Et l'histoire n'est pas finie. Deux instituteurs sont en arrêt maladie, tandis qu'Anaïs rêve toujours de quitter le village.
C'était Comme un bruit qui court. On se retrouve la semaine prochaine. Et après les infos, c'est Colin et Mauduit pour Si l'Amérique m'était comptée.